Société, vous connaissez ? C'est nous !
Une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Pendant plusieurs mois, des collectifs ou associations de femmes implantées dans différents quartiers populaires de Marseille se sont réunis pour échanger sur leurs pratiques. Ces rencontres ont été initiées par Camiraca et Johanna Fidalgo pour la direction de la politique de la ville Métropole Marseille-Provence. Au cœur des échanges, les discriminations multiples et systémiques auxquelles les habitants et les habitantes de ces quartiers sont confrontés. Ces femmes luttent pour le droit au logement, à l'éducation, à la santé, au transport, ou pour faire entendre la voix des habitantes et des habitants dans les politiques de rénovation urbaine. Elles disposent souvent de peu de moyens, alors même qu'elles pallient aux carences de l'État. Leur détermination constitue la ressource principale sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Au fil des rencontres, nous avons fait connaissance et nous leur avons proposé de faire le portrait de leur association, de leur collectif. Une manière de rendre hommage au travail colossal qu'elles accomplissent. Épisode 3, les Minots de Saint-Charles, entretien avec Hinda Benour.
Alors, pour venir jusqu'à chez nous, de la gare Saint-Charles. Donc quand on sort de la gare, on se retrouve face à l'université, la faculté Saint-Charles. Donc on longe la fac en allant vers l'autoroute, en descendant vers la porte d'Aix. Et c'est la rue qui est juste avant l'accès à l'autoroute.
Vous avez bien raison, voilà. L'idée c'est de se retrouver entre habitants, créer du lien, dynamiser le quartier, voilà. Des ateliers couture, des ateliers numériques, accompagner les personnes âgées, comme là la dame qui vient de sortir, elle ne parle pas français, c'est la galère pour faire ses papiers, oui. Voilà. Oui. Et il y en a plein dans le quartier, donc oui. Voilà, quand on peut accompagner.
Ben voilà. Moi ça fait 20 ans que j'habite le quartier, mais c'est vrai.
Je m'appelle Hinda Benour. Je suis membre de l'association Les Minots de Saint-Charles. À la base, c'était juste des mamans qui voulaient changer le quotidien dans les écoles, accompagner à la scolarité leurs enfants, être un petit plus pour le quartier. Mais on ne s'est jamais imaginé avoir l'impact qu'on peut avoir aujourd'hui sur le quartier. Ça, on ne l'a jamais projeté, mais on le constate au quotidien. Moi, je me suis retrouvée totalement par hasard dans le quartier suite à la pression démographique qui existe dans le 3e arrondissement, au moment de l'entrée à l'école de ma fille en maternelle, parce qu'il n'y avait pas de place nulle part. Et après, petit à petit, je me suis impliquée dans la vie du quartier et dans la vie des écoles en particulier. Les Minots de Saint-Charles sont nés dans les écoles maternelles et Saint-Charles 1 dans le quartier du Racati. Et ont pris un peu plus d'ampleur avec le temps et on s'est installé au cœur du quartier du Racati qui est enfermé entre l'autoroute, la gare et la porte d'Aix. C'est une cité qui est enclavée parce qu'on est dans une impasse. Il y a la faculté juste derrière qui est fermée sur elle-même. Une cité de centre-ville, on compte à peu près à la louche 2000 habitants. C'était tout bête au départ. Pourquoi telle école fait une sortie et pas l'autre? Quand j'ai fini par comprendre que c'était financé par les familles, par le biais des kermesses, j'ai dit pourquoi pas, on va essayer de collecter des fonds, apporter le petit plus. Pendant 4-5 ans, on était juste sur la vente de gâteaux, sur des kermesses. J'ai commencé seule au départ, j'étais l'extraterrestre du quartier qui venait poser ses crêpes et qui vendait, les gens ne comprenaient pas, et petit à petit, ça fait des émules et on a été un petit groupe de mamans. Et on a été accompagnés par la politique de la ville sur un projet pour, j'ai trouvé ça bizarre, c'est pour nous former en tant que parents, pour nous apprendre à nous saisir des outils à notre disposition pour que notre parole soit entendue au sein des instances. Ben c'est quoi, représentant des parents d'élèves, ces listes qu'on nous donne en début d'année, vous êtes représentant, on vote, on ne sait même pas pourquoi on vote. Pourquoi je dois prendre une liste et la mettre et je n'ai rien le droit de changer dans la liste? Au début, c'est vraiment pas clair. Et bon, ben, on s'est saisi de ça, on a appris que bon, ben, le conseil d'école, c'est pas juste on lève la main, on dit amen à tout ce qu'on nous dit, on a le droit de discuter le règlement intérieur, on a le droit de... Ça, si on nous le dit pas, on le sait pas. Par exemple, c'est tout bête, mais en tant qu'association, on a le droit à un tableau d'affichage. On a le droit à une salle quand elle existe. Mais ça, faut le savoir. C'est le petit plus d'être en association. Et donc, en 2012, on s'est monté en association. Et c'est comme ça qu'est né le Minot de Saint-Charles. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a la confiance des familles. Les familles nous connaissent, elles viennent spontanément vers nous. Elles n'ont aucune difficulté à nous exprimer leurs besoins, leurs attentes. Il y a plus de défiance quand ça vient de l'extérieur, des associations qu'elles ne connaissent pas ou d'institutions. On essaye d'être une plateforme, d'aller chercher des professionnels et de les mettre en lien en fonction des besoins avec les familles. Et c'est aussi de faire prendre conscience aux gens que la solution, elle ne vient pas toujours de l'extérieur. On peut être aussi porteur de solutions, on peut changer les choses à notre niveau. Et par de petites actions, on peut infléchir des choses au sein du quartier. Une association, ça n'a pas de sens si on est deux ou trois. Il faut vraiment avoir un groupe derrière. Ça prend cinq ans pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, l'intérêt que ça peut avoir pour le quartier et mesurer l'impact que ça a. Au début, ça fait peur parce que qui dit association dit relation avec la préfecture, déposer des statuts, c'est quoi ces statuts? C'est donc expliquer que c'est rien. La contrainte administrative, elle n'est pas si énorme que ça au regard de ce que cela nous apporte.
Oui.
Ben voilà, et ben c'est un jeu de mots.
Et comment tu prononces la chabot?
Et ben du coup, moi je dirais
il y a le miaou, on dirait mon chat.
Alors au départ, on était une quinzaine de mamans impliquées au quotidien, plus les mamans qui n'étaient pas forcément disponibles, mais lorsqu'il y avait de grosses manifestations, qui nous disaient n'hésitez pas, sur ponctuellement, on est mobilisable et on peut être là. Et après, elles ont vu concrètement les changements, je veux dire, au niveau de l'école. Par exemple, bon, les sorties chaque année, les deux écoles sortent. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais il y a eu aussi la relation avec l'école qui a bougé. Bon, on a eu des directeurs aussi qui nous ont ouvert l'école et qui avaient cette mentalité d'accueillir les parents. Ça aussi, ça dépend des personnes. Et que quand on a un directeur fermé, c'est compliqué de forcer la porte. On a eu cette chance-là et de l'intérieur, on a pu avoir un vrai dialogue construit lorsqu'il y a eu des problématiques au sein du quartier et des incompréhensions entre l'école avec un grand E et les familles. Au départ, quand on s'est créé en association, on avait une cinquantaine de familles adhérentes. Au jour d'aujourd'hui, on a 137 familles et on est plus que 600 personnes. Sachant qu'aujourd'hui, ça va au-delà de l'école. C'est les gens du quartier qui s'impliquent, c'est les gens qui viennent soutenir, adhérer, mais juste pour dire on est là, on vous soutient, parce qu'on a pu mesurer votre impact sur le quartier et on veut soutenir votre action. Des fois, les gens passent, ouvrent la porte, vous êtes bien les Minots de Saint-Charles, on veut vous remercier pour ce que vous faites, on ne les connaît même pas. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, on a eu un meurtre où ça a eu une grosse incidence sur le quartier parce que ça a tiré en pleine rue, en plein jour. Émotionnellement, ça a été très très difficile. Ça s'est passé pendant les vacances de Pâques. À la rentrée des vacances de Pâques, on a fait le blocus de l'école. On a appelé les directeurs d'école pour leur dire « dans le quartier, voilà ce qui s'est passé, c'était les vacances ». Mais la rentrée, on ne va pas la laisser passer comme ça. Les enfants traversent la rue pour monter à l'école. C'est une impasse. Il n'y a pas d'autre accès que cette rue-là. Et ça faisait des années et des années qu'on demande de la médiation urbaine dans le quartier. Bon, c'est des enjeux qui nous dépassent. Il y a des histoires de gros sous là-dessous, on l'entend bien. Mais bon, pour nous, c'était incompréhensible pourquoi le Rakati ne faisait pas partie de cet ensemble où des actions soutenues sont indispensables et elles n'ont pas lieu. Donc du coup, quand on a fait ce blocus, on a mobilisé les médias et on a pris la parole devant les médias. Et bon, ben, on a dit les choses telles qu'elles devaient être dites. Et les gens se sont dit qu'on était des inconscientes, qu'on n'avait pas peur des représailles et tout ça. Et c'est là que les commerçants du quartier sont venus nous dire merci. Nous dire, mais on ne comprend pas pourquoi c'est vous les mamans qui faites, mais bravo, merci. Suite à cette intervention, on a été reçu par la préfecture. Et aujourd'hui, on est enfin arrivé à faire en sorte, depuis septembre, on a des éducateurs qui sont dédiés au quartier, qui sont venus nous voir en amont pour préparer le terrain, pour essayer d'identifier les besoins. Et on travaille en lien avec eux. Des fois, ils ont besoin d'un lieu pour pouvoir faire des entretiens avec les familles, avec les enfants. Donc on met les lieux à disposition, on met un bureau, ils accueillent. Et nous-mêmes, quand on fait un repérage, on leur dit « ce gamin, il traîne beaucoup, ça serait bien que tu ailles le voir. » Ben, c'est l'errance des jeunes. Il n'y a rien dans le quartier, il n'y a rien. Je veux dire, dans toutes les cités, il y a une maison de quartier, une vraie maison de quartier, avec un lieu où les familles peuvent se retrouver, un lieu qui accueille le public. Chez nous, il n'y a pas, parce qu'on est... On est une cité, certes, mais nous, une cité du centre-ville. On n'a que des parkings, on n'a pas d'espace vert, contrairement aux grandes cités qui peuvent exister à l'extérieur. Il n'y a pas d'endroit où les enfants peuvent jouer ensemble, se retrouver. Et donc, c'est des jeunes livrés à eux-mêmes qui sont confrontés au trafic directement dans la rue. Des structures d'accueil, il y en a, mais elles sont saturées. Il y a la Maison pour tous Kléber, le seul centre social le plus près, et qui est déjà saturé, qui n'arrive pas à accueillir son public, tellement il y a une grosse pression démographique dans le quartier. Il n'y a que dans le troisième... Je pense, hein, parce que j'avais vu ça très peu ailleurs, où pour inscrire ton enfant au centre aéré, tu vas faire la queue à 7h du matin. Tu te lèves, tu commandes un ticket et tu t'organises entre habitants. Ils se font des numéros entre eux. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Parce qu'il n'y a pas de place, tu ne peux pas inscrire ton enfant au centre aéré, il n'y a pas de place. Donc c'est priorité à ceux qui travaillent, et ça aussi, pourquoi priorité à ceux qui travaillent? Ça veut dire que quand tu ne travailles pas, ton enfant n'a pas le droit aux vacances, il n'a pas le droit, parce que très souvent... C'est des familles qui sont en difficulté sociale, qu'on peut le luxe d'envoyer leurs enfants en vacances. Mais ça, c'est une goutte d'eau par rapport à toutes les difficultés qu'on a présentes. On te demande un bilan orthophonique en CP, t'arrives en CM2, tu l'as toujours pas fait. Je te mets au défi de téléphoner à une orthophoniste du 3e, revenez dans 4 ans. T'es en difficulté psychologique, tu téléphones au CMPP, PITEAS ou bien la rue Crimée, c'est 4 ans. Tu as ton fils qui est suicidaire, allô, j'ai besoin d'un psychologue en urgence. Revenez dans 4 ans. On vit dans la quatrième dimension, mais il faut être confronté à ça pour le réaliser. Moi, mes enfants, ils ont la chance que j'ai cette capacité de les accompagner, je peux être derrière eux. Au niveau soutien scolaire, ils n'ont pas besoin d'un accompagnement plus poussé que ce que je peux leur offrir à la maison. Ils ont deux parents qui travaillent, ils ont chacun leur chambre. C'est des privilégiés dans le quartier. Alors que c'est juste, je vis en HLM, hein, j'ai le SMIC, mon mari aussi, on n'est pas... L'égalité des chances, c'est un mythe. Le déterminisme social, on est en plein dedans. Quand en CP, tu n'as toujours pas fait de bilan, comment tu veux suivre une scolarité normale au collège? Quand tu es dans des quartiers où il n'y a pas de SECPA, je ne dis pas que c'est la panière, c'est la SECPA, hein. Il y en aurait des choses à dire dans les SECPA, les CLIS, les machins. Nous, il n'y en a pas, c'est le problème, il est réglé. Au collège, ton enfant, il est différent, tu n'as aucune structure pour l'accueillir. En centre-ville, hein, ça c'est le grand centre-ville. Alors on entend beaucoup de blablabla sur la grande section à 12, le CP à 12 et tout ce qu'on veut. Et déjà, dans nos quartiers, ils ne sont pas 12, les écoles elles sont petites, la pression elle augmente, il n'y a pas de bibliothèque dans nos écoles, il n'y a pas d'espace informatique dans nos écoles parce qu'on réquisitionne les salles pour faire des salles de classe. Et à côté, le collège, tous les moyens qu'ils avaient, on leur enlève, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ont fait de plus. Ils ont juste redistribué les cartes, ils n'ont pas mis de l'argent en plus dans le système. Il y avait du sport entre midi et deux, supprimé, il y avait des actions qui étaient menées sur les enfants, un petit peu à la marge, en difficulté, les groupes GPDS, disparus. Toutes les actions renforcées au sein du collège ont disparu. Donc on a perdu 80 heures en 2 ans au collège. Sur des actions qui sont vitales hein, pour les collégiens. Après, il existe toujours quelques actions, mais c'est les profs qui sont hyper engagés, qui se cassent la tête pour essayer de trouver de l'argent à droite à gauche pour maintenir des activités. Mais l'éducation nationale, c'est censé être le vecteur de l'égalité des chances, c'est censé être eux le support pour donner toutes les chances aux gamins. Moi, j'en reviens au déterminisme social, on est dans ces quartiers, on n'est pas logé à la même enseigne, c'est pas vrai. Combien de générations d'enfants sont sacrifiées? La pression démographique qu'il y a dans le troisième, ça fait 20 ans qu'on en parle. On commence à réfléchir à du foncier pour construire un collège. On commence. Donc d'ici 10 ans, peut-être, à force de faire entendre la voix, bon, on sait que ceux-là, ils sont chiants, on lâche 3 francs 6 sous pour les faire taire, mais ceux qui se taisent, ils n'ont rien. C'est des petites victoires qu'on arrive à grignoter sur le terrain, mais quelle énergie il faut mettre pour avoir ce qui, j'estime, être un droit universel. Je veux dire, le droit à l'éducation, il est censé être égal pour tous. Ben, c'est pas le cas. Souvent, on a une représentation des collèges de quartier, c'est ce collège, jamais, on n'y va pas, on ne connaît pas, on a cette appréhension, on entend ce qui se passe autour, on fantasme beaucoup. Et c'est toujours mieux dans le privé, c'est toujours mieux ailleurs, donc on fait tout pour ne pas aller dans le collège du quartier. Quand ma fille est arrivée en CM2, j'ai dit « kiné, moi, jamais ». Bon, après, je commençais à réfléchir et je me suis dit « bon, pourquoi ?» Ma fille, c'est une bonne élève, je me suis dit « si tous les bons élèves sortent, je me suis dit « j'allais voir » et une fois que j'ai mis le pied dans le collège, Mon point de vue a changé, je veux dire, mais il a fallu que j'y aille et j'étais pas rassurée dans cette transition. Et on a mené tout ce travail avec les parents de l'école pour leur dire non, mais c'est notre collège, c'est un lieu de vie, c'est à nous de le faire vivre.
Justement, sur cette histoire de carte scolaire, c'est plutôt quel type de parents qui essayent d'envoyer leurs enfants dans d'autres collèges d'un point de vue socio-professionnel ?
Je connais très peu de parents qui est pas prêt à tout sacrifier pour l'avenir de ses enfants. Il y en a beaucoup qui disent « ouais, c'est la garderie, s'en foutent, on a commencé par Blanquer ». Tout le monde sait qu'on s'achète des télévisions avec la prime de rentrée scolaire. Il y a des parents démissionnaires, on va dire le mot, il y en a. On ne va pas se voler la face, il y a des parents qui, c'est très compliqué, déjà, ils essayent de survivre dans ce monde. Nourrir les enfants le soir, c'est déjà une victoire. Donc ces parents font comme ils peuvent. Mais le rêve de la plupart des parents dans ces quartiers, c'est l'école, parce qu'ils savent que leur seule sortie pour l'avenir de leurs enfants, c'est l'école. Il y a tout à construire et tout à déconstruire aussi sur la représentation qu'on peut avoir. Si par exemple, on a des enseignants qui viennent enseigner et qui ne connaissent pas le quartier, mais qui ne connaissent pas du tout. Qu'ils ont des idées sur « ah, c'est pas normal, il fait pas ci, il fait pas ça, oui, mais tu as vu les conditions dans lesquelles il vit, tu as vu ce qu'il fait ?» Il y a des centaines et des centaines d'enfants qui n'ont pas d'alternative, qui n'ont pas de parc, qui n'ont pas de sport, qui n'ont pas accès. Il y a les associations du territoire qui essayent de compenser, mais c'est très compliqué. Ben, le résultat des courses, c'est les gamins au collège, ben oui, ils bougent, oui, c'est le seul lieu où ils se retrouvent. Donc ils sont contents de se retrouver. Et après, la pression qu'on met sur ces gamins, et je le vois au conseil de classe, comment ils se font tuer au conseil de classe pour des bavardages. Parce qu'ils bavardent. Non, mais c'est bon, on est censé récompenser les enfants lors du conseil de classe et mettre en valeur tout ce qu'on peut mettre en valeur. Quand on y va, on a l'impression que le focus n'est mis que sur le verre à moitié vide. Et c'est là où on a toute notre place à jouer, tout notre rôle à essayer de faire la médiation, de faire porter la parole des parents. Il y a beaucoup de parents qui sont venus et ils m'ont dit « Bon, ben nous, on arrête. Si on est là juste pour chauffer la chaise et pour dire amen à tout ce que disent les enseignants, c'est pas la peine. On est là que pour prendre des notes. Dès qu'on parle, on nous coupe la parole. Quelle est notre place ?» Ben là, c'est quelque chose qu'on va travailler. Nous, on a la chance d'être dans la cité éducative du grand centre-ville. Il y a une réflexion qui est menée sur l'accompagnement à la scolarité. Comment on peut aider les parents à accompagner la scolarité de leurs enfants? Et dans ce cadre-là, on est 3 associations porteuses d'un projet, l'Université du Citoyen, Anthropos et nous-mêmes, sur une réflexion autour du théâtre forum et accompagner les parents pour dire les choses, prendre la parole et dire qu'on est légitime pour dire les choses. Et ce n'est pas parce qu'un enseignant dit blanc que c'est blanc. Il ne s'agit pas de casser l'autorité de l'enseignant. Et ça ne veut pas dire que l'enseignant il a raison sur tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mon fils avait eu un 0 en sciences naturelles sur un exercice qu'il avait fait juste. Bon, il se trouve que j'ai une maîtrise de sciences naturelles, accessoirement, donc je comprends un petit peu. Quand j'ai vu, je savais qu'il avait fait juste, et lui, il était dans un état, en larmes. Il est allé voir sa professeure plusieurs fois. J'ai demandé un rendez-vous. Déjà, elle me donne rendez-vous, elle me reçoit 45 minutes plus tard, ni excuse, ni rien du tout. Elle me reçoit, je l'expose, je lui dis, il n'y a pas de souci, hein, il a fait faux, mais expliquez-lui pour qu'il ne reproduise pas l'erreur. Donc je lui montre. Elle me regarde et elle me dit, vous savez lire ?
Waouh !
J'ai dit, oui, un peu. J'ai déjà appris à l'école, un peu. Par contre, et ça, je m'en suis voulu après, en partant, je lui ai quand même dit que j'avais une maîtrise de sciences naturelles. Et je me suis dit, mais pourquoi je me suis justifiée? Comme quoi, ça peut, voilà, le regard que l'enseignant a sur le parent, ben oui, ça peut déstabiliser. Ben, bien sûr, un parent qui n'a pas les codes, qui n'a pas été à l'école en France, qui... bien sûr, quand un prof le rabaisse comme ça, il peut se poser des questions. Mais voilà. Et c'est toute cette notion de comment ramener le dialogue, ben, ça se travaille. Il y avait la problématique de l'accompagnement aux sorties scolaires des mamans voilées. On a la maternelle, l'école primaire qui sont côte à côte. La maternelle autorise aux mamans voilées l'accompagnement aux sorties scolaires, la primaire non. Expliquez-nous. Sur quelle loi vous vous basez? Soit c'est autorisé, soit ça ne l'est pas. Ça ne peut pas être autorisé pour une école ou pour les maternelles et pas pour les primaires. Expliquez-nous. On a eu quelques petites difficultés de dialogue avec la direction et l'inspection. Apparemment, la directrice n'était pas opposée à l'accompagnement, mais elle ne voulait pas en porter la responsabilité. On a fait la grève de l'accompagnement. On accompagnait en maternelle parce que tout le monde était autorisé. En primaire, personne n'accompagnait, donc on n'allait pas en piscine, on n'allait nulle part. Parce que c'était pas normal pour nous qu'il y ait une discrimination à ce niveau. Et on a fait un courrier à l'inspecteur qui nous a reçus, qui était sur la défensive au départ, mais on a été le voir en lui disant « Mais on sait que vous êtes là pour faire respecter la loi. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous éclaircissez cette loi. Que dit la loi ?» Parce que nous, dans ce qu'on a compris, elle n'interdit pas. Donc pourquoi là on peut et là on peut pas ? Et bon, c'est là que les choses se sont détendues. Les sorties scolaires ont repris avec l'accompagnement des mamans voilées. L'anecdote du banc. Il y avait un banc devant l'école et c'est là qu'on se retrouvait. On était en association mais on n'avait pas encore de local. Et on avait pour habitude de se poser à la sortie de l'école quand on récupérait nos enfants et de discuter de nos projets sur ce banc. Un matin, les services municipaux sont venus et ont détruit ce banc. Parce qu'il se trouvait juste sous la fenêtre de la concierge et la concierge avait fait une demande parce que le soir, c'était squatté par les jeunes. Mais nous, on ne nous a pas prévenus. On arrivait le matin, il y avait le marteau-piqueur qui était en train de détruire le banc qui est là depuis 30 ans. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est senti agressé, méprisé. On a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, on arrête tout. Hein. Voilà, on n'a pas... Déjà que c'est compliqué, on n'a pas de moyens et on vous enlevez le peu de choses qu'on peut avoir. On s'est retrouvé à un autre lieu de récul, donc les escaliers en face. Mais ça a changé nos habitudes et ça nous a totalement déstabilisés. Mais totalement. C'était symbolique. On nous l'a enlevé. C'est les parents, vous n'avez rien à faire ici, rentrez chez vous. Le directeur s'est un petit peu inquiet. Et encore, il a eu, lui, la lucidité de se dire non, mais là, je vais perdre les parents, il faut que je fasse quelque chose. On s'est réunis en urgence, réunion au sommet. Quand j'en parle maintenant, c'est tellement ridicule. Mais sur le moment, émotionnellement, c'était très, très compliqué. On s'est senti vraiment méprisé et, bon, voilà, et dépossédé. De liste d'attente pour un rendez-vous CMPP. Quand il y a des gros soucis de harcèlement dans les collèges, tous les soucis liés à l'image, les réseaux sociaux qui ne sont pas explicités, dans ces quartiers peut-être encore pire, parce que souvent le seul moyen d'évasion qu'ont les familles, c'est les écrans. C'est tenez les écrans, tenez les jeux vidéo, il n'y a que ça. Et on ne voit pas tout ce qui est pernicieux derrière. Il y a 2 ans, en février 2020, juste avant l'épisode Covid, on a vécu un drame au collège, qui est le suicide d'un collégien. Un bon élève, qui n'a jamais été remarqué par quoi que ce soit, qui a eu 6e, 3 fois félicitations, 5e, premier trimestre, compliment, un élève investi, pas de problématique particulière, pas de, d'observation sur son carnet, rien. Il y a eu un incident. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Je ne sais pas. Il s'est retrouvé dans le bureau du proviseur adjoint. Il a été question, ou pas, à un moment donné, d'un conseil de discipline. Toujours est-il que sorti de là, il est rentré chez lui, il s'est suicidé. L'incompréhension totale. Totale pour les familles, pour cette famille en particulier, pour toutes les familles qui entourent, et pour nous, notre rôle, comment on accompagne, et l'abandon des institutions, encore une fois. Où l'institution s'est protégée, il y a eu des psychologues au sein de l'établissement. On a voulu faire un café parent pour accompagner les parents. On nous a empêchés de le faire à l'intérieur du collège parce qu'ils avaient peur des débordements, parce que, bon, voilà. C'était juste aux vacances de février, mars, confinement. 2 ans plus tard, ça n'a jamais été traité. Nous, on s'est retrouvés face aux familles à recevoir la parole des familles complètement dépassée. Il a fallu trouver, nous, des solutions intermédiaires pour trouver des psychologues pour accompagner la fratrie. Est-ce que c'est notre rôle? Voilà, c'est la quatrième dimension. Et au-delà de ça, c'est toutes les familles, les interrogations, moi-même en tant que parent, c'est comment on parle à nos enfants? Est-ce qu'on est trop sévère? La famille, elle est dévastée parce qu'elle ne comprend pas, il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Et on nous a laissé, nous, en tant que parents, face à cette incompréhension, et à devoir recevoir la parole de tout le monde. Pendant un mois, on était le bureau des pleurs où tout le monde venait, et mon fils, c'est comment? Et j'ai peur. Avec nos petits moyens, on est parti chercher à droite, à gauche, on a fait des permanences psychologiques, et voilà, et maintenant c'est pérenne. Je pense pas que c'était à nous de le faire. Mais très souvent, c'est comme ça. C'est comme lors du premier confinement. Moi, j'habite le quartier, j'habite le troisième, donc je le connais, le quartier. J'ai été extrêmement surprise par la misère en mars 2001. On sait le nombre de boursiers, on a un taux de boursiers de 85%, ça en dit long, mais pas à ce point. Sans l'idée du CHO, j'aurais pas eu l'idée de la distribution alimentaire. En fait, l'idée du CHO, c'est que tu as 2 ou 3 familles que tu parraines, que tu appelles quotidiennement pour voir s'ils ont besoin de rien, si tout va bien, et que tu faisais le lien avec le CHO. Et j'ai appelé les copines et je leur ai dit, mais regardez ce qui se fait, pourquoi on le ferait pas? On a des locaux, on a 100 mètres carrés de locaux. À ce moment-là, Resto du Cœur fermé, Secours Populaire fermé, ils étaient tous confinés. Et je me suis dit, d'accord. C'est comme ça qu'on a tissé des liens avec l'école nationale, l'école Bugeaud, où il y a quelques enseignants qui se sont emparés de la problématique, et que le réseau est né. On a appelé le directeur d'école, connaissez-vous des familles dans l'urgence absolue? On a appelé le collège, l'assistante sociale du collège qui nous a dit, mais moi je suis confinée. Je lui ai dit, d'accord, mais à un moment, on a besoin d'informations. Ceux qui nous connaissaient nous ont sollicités. Après, le bouche à oreille, on a été sollicités par les familles en larmes, des bébés, des nouveau-nés qui n'avaient pas de lait, des nourrissons qui n'avaient pas de couche. Ça a été 30 tonnes de nourriture distribuées seules. Pendant le premier confinement, il a fallu demander une habilitation en urgence à la banque alimentaire. Chaque semaine, il fallait trouver des camions. Et quand je dis des camions, c'est 3-4 camions chaque semaine pour aller chercher 2-3 tonnes de denrées à distribuer. On a été plus d'une cinquantaine à s'impliquer. Ils sont venus avec leur véhicule personnel à livrer. Et ça aussi, humainement, sécuriser des paquets de pâtes. Tu te rends compte que tu viens dans certains quartiers, tu sors ton panier, t'as 15 familles qui viennent, moussi. Dans certaines rues, et c'est ça où je te dis, je vis à Marseille quand même, on vit dans le troisième. Mais il y a des endroits, c'est la science, c'est pas possible, on vit pas. T'as pas besoin d'aller au Soudan où il y a des lieux de vie ici. Waouh!
Ouais.
Et ça, je l'ai découvert pendant le confinement. Là, maintenant, avec le recul, tu me dis recommence? Je dis, mais je peux pas. Parce qu'on l'a vécu sur le moment, on l'a fait par automatisme, parce qu'il fallait faire. Mais on n'est pas ressorti indemne de tout ça, je veux dire, on n'est pas travailleurs sociaux. Quelle légitimité on a pour dire, bon, toi je te donne un colis, mais toi je te donne pas? C'est violent, c'est extrêmement violent, mais en même temps, c'est pas extensible. On arrivait à financer 180 familles, on ne pouvait pas aller au-delà. On avait les fameux paniers légumes de la politique de la ville, sauf que c'est territorialisé. Et nous, on s'est retrouvés face à ça, face à dire, bon ben, toi t'habites dans le 14e, t'es dans le collège kiné, on sait pas pourquoi, mais je suis désolée, va voir un centre social qui te connaît pas au 14e. On n'est pas sorti indemne de ça. On s'est dit, c'est pas possible, ça, c'est pas notre travail. À un moment, il y a des questions de confidentialité, mais on est qui, nous? Parce qu'on est confronté à ça tous les jours, où les gens viennent nous parler, mais qu'est-ce qu'on fait de l'information? Où on a des drames humains, et on est là, on se dit, bon, mais je fais quoi, là? Il y a des urgences familiales, où il y a des femmes battues, mais on n'est pas équipé pour répondre à ça. On le fait parce qu'à un moment, en tant qu'être humain, voilà, c'est non-assistance à personne en danger, à la limite, tu sais que tu as quelqu'un qui meurt de faim à côté de toi, bah, t'es obligé de faire quelque chose. Et c'est là où on s'est beaucoup posé la question de, dans le quartier, l'aide, comment elle est constituée, les assos, on se connaît pas, on n'a pas de liste commune, on partage pas les informations. C'est là où on s'est dit, le maillage, il est vital. Et après ça, il y a eu l'été, personne qui partait en vacances, les centres aérés qui étaient tous saturés, ben, il a fallu faire l'été. Ben, on s'est improvisé centre aéré, faire des sorties, on prend un quart, mais un quart c'est pas suffisant, on en prend deux. On se retrouve trois, quatre quarts, on est parti à quatre quarts. Ça a été, par exemple, premier confinement, la continuité pédagogique, des mamans qui m'appellent, mais je ne sais pas faire les devoirs, ben comment je fais? Mais je ne sais pas répondre aux mails, mais je ne sais pas. Donc j'ai découvert TeamViewer, je ne sais pas si tu connais. Tu prends le contrôle sur l'ordinateur à distance. Et vas-y, explique comment tu remplis un PDF en ligne à un minot, que voilà, tu te retrouves à faire des choses que, voilà, ce n'est pas à toi de le faire. 3000 masques qu'on a cousus ici, qu'on a distribués. Et la distribution, on la faisait, on la livrait. On venait avec nos voitures pour que les gens ne se retrouvent pas dans la rue. Parce qu'à l'époque, il ne fallait pas sortir, les attestations, pas les attestations. Et l'immensité des familles en difficulté, c'est des sans-papiers qui étaient socialement dans une situation très complexe. Et l'économie parallèle a disparu du jour au lendemain, sauf qu'eux, ils n'ont pas de substitut. Et jusqu'à maintenant, on continue à accompagner ces familles autrement. Parce que l'assistanat, ce n'est pas notre objectif non plus. Donc on a mis en place un système de parrainage ou du troc. J'échange un panier de fruits, légumes, de ce que tu veux, contre un service. Et ça, ça se définit entre eux. Il a fallu trouver, inventer des solutions en permanence pour combler les carences de l'État. T'as beau faire, c'est jamais assez. Et t'es frustré derrière. C'est à la fin, c'est, tu vois pas ce que t'as fait, tu vois que ce que t'as pas fait. Tu te dis, oh punaise, j'ai rien fait pour lui, là. Et ça te mange, ça te bouffe un moment, parce que t'es pas protégé, t'es pas préparé à ça. Nous, à la base, on voulait juste améliorer le quotidien de nos enfants dans les écoles. Dès la création de l'association 2012, il y avait 13 personnes au bureau. C'était essentiellement la vente des gâteaux, notre source de revenus. On était toutes bénévoles. À un moment donné, je leur ai dit, je ne peux plus, je donnais tout mon temps.
Est-ce que tu bossais à côté?
Oui, jusqu'à un an et demi, où il y a eu un adulte relais, qui est donc moi. Je suis la seule salariée, donc le SMIC, ça fait un an et demi. On se sent tellement pas légitime qu'on n'a même pas osé le demander. Ce qui a porté, mais vraiment, ce qui a porté l'association, c'est la sororité qui est née de ça. Et aujourd'hui, l'asso, elle est portée par 6-7 personnes au quotidien, mais quand on a besoin, toutes les familles sont là. C'est un coup de fil, elles viennent. La fierté, c'est que maintenant, c'est les jeunes qui viennent. Et moi, c'est ça la récompense. Ouais. C'est de voir ces jeunes qui n'hésitent pas, quand ils ont des difficultés à venir, nous dire, bon, je me suis retrouvée dans une situation délicate, comment je fais pour m'en sortir? C'est mettre des cours de numérique en place pour ces familles. C'est l'aide administrative qu'on fait tous les jours. Les familles nous font confiance et la victoire, elle est là.
Donc, alors, je voudrais faire envoyer donc un courrier, un email au Centre de Sécurité Sociale leur disant que j'ai déposé un dossier d'ACS pour cette somme-là. Puisqu'entre-temps, mon dossier était donc... Alors, c'est compliqué, alors.
Non, c'est pas compliqué.
Bon, alors. Mais
en fait, c'est pas compliqué. Savoir où était mon dossier. Donc, alors. Là, du coup, il y a le site, après, il y a le site de la CPAM, d'accord?
Pardon, de la Sécurité sociale.
La Sécurité sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle le compte Amélie.
Je l'ai, ça, je l'ai.
Ça, tu l'as. Ça, c'est ce qui va... En fait, c'est là que tu vas avoir un ensemble d'informations. Les informations des démarches que tu as faites.
Voilà.
Quand tu veux faire une, tu peux faire une demande, par exemple, de maintenant ce qu'ils appellent la CSS.
Ça, je l'ai faite par courrier. Mais je voudrais juste savoir où elle en est.
Voilà. Et ben ça, on va aller regarder sur ton compte Amélie.
Parce que là, j'ai rien reçu.
Parce que c'est ton compte Amélie. En fait, c'est sur ton compte Amélie que tu vas pouvoir avoir toutes les informations.
Ouais. D'accord.
Les démarches que tu as fait, soit ils t'ont envoyé effectivement un message, et si tu veux contacter la CPAM, en fait, ça sera par ton compte Amélie.
Voilà.
C'est un peu complexe, je dois t'avouer, mais je vais te montrer comment on fait.
Allez, d'accord.
Ouais, et ça sera le mail, de toute façon, on ne passera pas par le mail, on passera directement par ton compte Amélie.
Ah, d'accord.
Okay. Ouais. Donc tu bois ton
café. Je vois mon café. Mais est-ce qu'on peut envoyer un mail par le compte Amélie ?
Une dernière question. Je suis vraiment très impressionnée par le travail que vous faites. Est-ce que tu avais, toi, une expérience déjà de l'engagement avant de te lancer quand ton enfant était à l'école maternelle ?
J'ai toujours été engagée sur le terrain quand j'étais étudiante, quand j'étais lycéenne. Bon, j'ai toujours milité dans des petites structures. Le sens de l'engagement, je l'avais déjà. Après, il y a eu une parenthèse dans ma vie. J'ai eu une grosse remise en question sur je suis qui, je fais quoi, quel est mon rôle, quelle est ma plus-value, qu'est-ce que j'apporte. C'était avant l'arrivée de mes enfants. Quand mes enfants sont nés, j'ai tout misé sur la maternité, où je me suis dit je vais être Wonder Maman, je vais tout faire. Très vite, ma fille elle m'a expliqué que c'est pas moi qui vais commander. Les règles, c'est pas parce que j'ai pris les livres, j'élève mon enfant, tout va être parfait, elle va faire ses nuits à 3 mois, le pot, pas du tout. Fou de remise en question sur mon rôle de mère. Et je dis, bon, là, sur l'accompagnement à la scolarité, là, je peux, là, je vais y arriver. Et j'ai tout mis là-dedans. Voilà, les choses se sont faites au fur et à mesure, au fil de l'eau. Mais c'est clair que j'ai du mal à mettre des barrières. Là, je suis adulte relais, donc je suis censée être salariée, mais j'ai du mal à enlever ma casquette d'ancienne fondatrice de l'association. J'ai du mal à compartimenter. C'est mon 3e enfant, l'assaut.
D'accord. Et j'imagine que tu fais bien plus d'heures que ce pourquoi tu es payée.
Je travaille le samedi, le dimanche, le soir, le matin. Même quand je prends mes vacances, je travaille. Comment je définis la sororité ? Pour moi, la sororité, c'est comme son nom l'indique, c'est des sœurs, c'est une deuxième famille. Quand je viens ici, on partage tout, bien au-delà de l'assaut. On partage beaucoup, beaucoup de choses, nos doutes, nos interrogations, nos angoisses, nos stress, nos enfants, notre éducation, on partage tout. Nos réflexions et on avance ensemble. Et quand on a un coup de mou, il y en a toujours une pour rattraper l'autre. Et on est vraiment, voilà, on est des sœurs. C'est nous, sororité. Aucun homme qui fait partie du bureau. J'ai besoin d'un homme pour faire des travaux. Je trouve un homme, mari déjà pour commencer. Tu peux me faire des bricoles, il vient, il les fait. On est soutenu par les hommes, mais de loin, et il faut les solliciter.
Comment tu l'expliques ?
Ça va être tout bête. Pendant ces vacances, pendant quelques jours, j'avais un petit coup de mou, pas le moral et tout. Je me suis isolée dans ma chambre et j'ai dit que je faisais rien. Mon fils est venu me voir en me demandant qu'est-ce qu'on mange. Je lui ai dit, débrouille-toi. Et pourquoi c'est à moi de faire les pâtes ? Et je lui ai dit, sors-moi le contrat où c'est que c'est écrit que c'est à moi de le faire. Montre-moi l'article de loi qui dit que c'est à la maman de s'occuper de ça. Et je pense que voilà, dans l'imaginaire collectif, l'éducation, c'est la maman. Et on a du mal à déconstruire ça, même si on a l'égalité homme-femme, on a eu des évolutions, les hommes sont un peu plus impliqués dans l'éducation et tout, mais ça reste encore exclusivement dévolu à la femme. On a des hommes qui poussent la porte, vous avez besoin d'aide, mais on n'a pas d'homme qui dit « bon, je veux venir, je veux vous aider », ça on ne l'a pas encore. Peut-être un jour, par contre, c'est pas fermé. Hein.
Mais en tout cas, ce que je trouve vraiment très beau, quoi, dans la manière dont tu dis les choses et qui, moi, me touche beaucoup, c'est que tu n'es vraiment pas du tout dans le jugement des personnes du quartier. Et au contraire, on a l'impression que tu as vraiment une vraie compréhension de ce qui se joue dans ce quartier et dans ce qui se joue dans la vie des gens en termes de difficultés.
J'ai eu un parcours qui fait que voilà, je me retrouve dans ce quartier par choix. J'ai besoin de ce côté populaire parce que j'y crois. Qu'est-ce qui fait la valeur de la personne? C'est pas les études. C'est des personnes très très riches. Et j'ai pas à les juger. Elles m'apportent énormément. Je veux dire, elles m'enrichissent tous les jours, au quotidien. Et bien au-delà de ce que, dans un autre quartier, je pourrais connaître. Encore une fois, je vais revenir sur le terme de sororité. Mais je me nourris de ça. Je veux dire, elles me portent. Elles me portent vraiment. Elles ont l'impression que c'est moi qui les tire. Mais non, c'est elles qui me portent. Mais vraiment, quoi, je veux dire, c'est elle qui me donne la force, c'est elle qui... J'ai envie de donner autant que je reçois. C'est parce que je reçois beaucoup aussi que je donne.
Collaboration is the next movement, yo. Roots, crew, the regiment, black thought, me amo. In this thing for life, yo, and that's final. Kid, you know the title, ain't no reason to remind you how I talk hustle from New York to Brussels. First it hit you in the head and then in all your muscles. Think deeply, we call it Rafiki. And to read the definition of a true MC, I'm subsurface, it's hard for y'all to peep me. But check it out. Rafiki, Rafiki.
Une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Épisode 3, Les Minots de Saint-Charles, un entretien avec Hinda Benour et grand merci aux participantes de l'atelier numérique. prise de son Fatima Sissani, montage Fatima Sissani et Rinka, mixage Rinka.